Les titres de la presse, Thomas Cluzel, avec ce matin, pas de quotidiens nationaux dans les kiosques.
Non, pour la troisième fois au cours de ces deux derniers mois, la CGT a en effet de nouveau décidé de bloquer l'impression et la distribution des quotidiens nationaux, à l'exception notable toutefois de l'Humanité, le journal qui publie ce matin une tribune du secrétaire général de la CGT, justement Philippe Martinez, lequel réclame le retrait du projet de loi travail. De son côté, Nicolas Bétou ne décolère pas, son journal L'Opinion, comme tous les autres quotidiens nationaux, est donc interdit de parution ce jeudi. Interdit, ce sont ses propres mots. Et pourquoi? Parce que la CGT, explique le fondateur du journal, a décidé en réalité de bloquer l'impression des quotidiens qui ont refusé de publier sous la contrainte un tract appelant le gouvernement à retirer la loi travail. Quoi qu'il en soit, la non-distribution donc ce matin des titres nationaux, à l'exception encore une fois de l'Humanité, semble donner de l'eau au moulin de tous ceux qui accusent depuis quelques jours la Confédération de bloquer le pays. Quand le journal La Croix, dans sa version en ligne, se demande, la CGT peut-elle bloquer le pays? Son confrère du Figaro publie lui en une de son site la photo de celui qui veut mettre la France à genoux, qui se cache derrière la moustache de Philippe Martinez, interroge ainsi Yves Tréhard dans un édito intitulé « La dictature cégétiste ». À en croire l'éditorialiste, le jusqu'au boutisme du secrétaire général de la CGT viendrait de sa seule crainte de perdre son pouvoir, car on a du mal à imaginer, écrit encore Yves Tréhard, que ce qu'il reste aujourd'hui de la loi El Khomri soit le seul motif de la colère de Philippe Martinez, se tenant du désordre contestataire ancien et à qui le déclin de son syndicat fait désormais perdre le sens commun. Bref, le ton monte chaque jour davantage chez les commentateurs, mais aussi et d'abord entre le gouvernement et la CGT. Donc chacun campe sur ses positions. Pour l'exécutif, écrit Jérôme Fenoglio dans Le Monde, la tentation est grande à présent d'aller au bout de ce bras de fer dans l'espoir que les Français s'exaspèrent et rejettent la responsabilité du conflit sur la CGT. Quant à la Confédération, elle fait le pari inverse, comprenait que le gouvernement de plus en plus affaibli soit contraint de renoncer. Reste tout de même que l'intelligence collective suppose que chacun y mette du sien, estime le directeur du journal avant d'interroger qui commence. N'y a-t-il aucun moyen de mettre fin au conflit en cours par la négociation, interroge à son tour Laurent Geoffrin dans Libération. Car après tout, de quoi s'agit-il en fait dans ce conflit? De ramener au niveau de l'entreprise les seules négociations sur le temps de travail? Voilà l'objet de la controverse. Or, cette affaire vaut-elle le blocage d'un pays entier comme le veut la CGT? Difficile à croire. Alors, si l'exécutif exclut toujours tout recul, une idée néanmoins cheminerait à présent, même si elle est pour le moment officiellement écartée, prévient Jean-Francis Pécresse dans Les Échos, celle d'une légère réécriture du fameux article 2, censé donner enfin la primauté à l'entreprise sur la branche pour déterminer la majoration des heures supplémentaires. Alors Hollande et Valls seraient-ils prêts à lâcher enfin du lest, ainsi que le suggère à son tour ce matin Le Parisien, devenu une partie de poker menteur entre le gouvernement, ses opposants et les syndicats. La bataille autour de ce texte maudit se terminera un jour, peut-être même désignera-t-elle un vainqueur. En revanche, et quel qu'il soit, celui-ci, écrit Frédéric Vézard, devra réaliser des prodiges pour rassembler un peuple en morceaux réduit jusqu'à présent à l'état de jeton.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, 6h41.
Le journal des idées.
Bonjour Jacques Mignier.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Un colloque international débute aujourd'hui à la Cour de cassation autour du livre de Michel Foucault, Surveiller et punir, paru il y a 40 ans.
Oui, le livre est resté un ouvrage de référence. Juste après sa parution, il était même cité dans les bibliographies officielles de préparation au concours de l'administration pénitentiaire. Dans les écoles d'éducateurs et dans certains stages de cadres directeurs des prisons, on faisait des exposés sur Bentham et sur le panoptique, à partir notamment de Surveiller et punir. Les pages débats et controverses de l'Humanité se sont posées en avant-première la question de l'actualité des thèses du philosophe avec les contributions de participants au colloque. Isabelle Fouchard du CNRS et Anne Simon, maître de conférence en droit pénal à Paris 1, observent que la société de surveillance et de contrôle annoncée par Michel Foucault semble plus que jamais prendre corps. La pénalité apparaît dorénavant traversée par une volonté forte de prévenir, voire de prédire des comportements en infraction. Les nouvelles prisons ont été conçues pour optimiser la surveillance par toutes sortes de moyens techniques et apporter des éléments d'observation à l'enquête judiciaire, comme en témoigne la création prévue d'un service de renseignement pénitentiaire. Mais, relèvent-elles aussi, le droit est de plus en plus présent en prison. Les recours contentieux se sont développés de manière exponentielle sous l'impulsion décisive de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et sur surtout, les organes de contrôle exercent une veille constante, au premier rang desquels le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Jean-Marie Delarue, qui l'a été contrôleur jusqu'en 2014, publie d'ailleurs ce 1er juin prochain un ouvrage collectif sur l'avenir des prisons où il rappelle qu'au moment de la parution de Surveiller et punir, 26 000 personnes étaient incarcérées en France et près de 70 000 aujourd'hui. La prison a-t-elle entre-temps fait la preuve de son efficacité? Demande-t-il. Les témoignages, les enquêtes sociologiques, les rapports officiels et les statistiques sur la récidive montrent plutôt l'inverse. Jean-Marie Delarue intervient donc dans ce colloque samedi à Paris 1 pour évoquer l'industrialisation de la captivité. Judith Revel, également présente, analyse dans les pages de débat de l'Humanité donc l'anatomie politique, en quoi consiste l'ensemble des opérations qui permettent ce nouvel investissement des corps partout où il importe de le rendre d'autant plus obéissant qu'il est utile, et inversement, la caserne, le couvent, l'école, l'hôpital, la prison, naissance de la prison, naissance de l'usine. Il ne s'agit pas là de confondre les deux espaces, ni de faire de la première l'archétype de la seconde, écrit-elle, mais de comprendre que des cellules aux emplacements fonctionnels, de la distribution des détenus dans les bras, les ailes de la prison, à celle des ouvriers sur la ligne, c'est un même travail qui s'accomplit. Il ne faut pas réduire cependant cette transformation au modèle du panoptique, ni à son fantasme d'une visibilité totale. Et la naissance de la prison a un problème d'architecture, mais y voir, précise-t-elle, le basculement général d'un régime qui affecte le temps autant que l'espace et tous les corps, dès lors que leur utilité productive est entrevue. À la réorganisation des manufactures et au règlement d'usines, Foucault consacre, dit-elle, des pages formidables, comment les disciplines ont littéralement construit la figure de l'individu productif à travers une série d'opérations se fondant à la fois sur l'isolement de chaque corps mis au travail et sur sa paradoxale mise en série.
Et puis la dernière livraison des cahiers d'anthropologie sociale s'intéresse au crime.
Oui, dans de très différents contextes sociopolitiques, culture juridique et zone géographique, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Europe, les pays musulmans, le crime est analysé d'un point de vue anthropologique comme un révélateur des relations sociales et politiques, ainsi que des valeurs morales en vigueur dans une société. Yazid Benounet et Déborah Pucciodden, qui ont coordonné le numéro, soulignent que les contributions tentent, dans ces différents contextes, de définir l'instance légitime pour qualifier un fait comme criminel.
Et la philosophie est à la fête grâce à Philosophie Magazine, puisque ce magazine fête ses 10 ans d'existence pour son numéro 100. Il pose la question rituelle, qu'est-ce que la philosophie?
Oui, d'Alain Badiou à Rémi Brague, ou Rémi Brague à Gayatri Spivak ou Slavoj Žižek, en passant par Jacques Rancière ou Clément Rosset, ils ont tous fait comme si c'était la première fois qu'ils se posaient la question. En gros, les points de vue se partagent entre ceux qui pensent qu'elle sert à changer le monde et ceux qui estiment qu'elle permet de l'accepter. Et parfois on trouve les deux options chez un même philosophe. Pour Clément Rosset, c'est le cas de Marx. Il y a l'utopiste et celui qui a fait pour l'économie ce que Nietzsche a réussi pour la psychologie, débusquer son motif caché.